Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza?
Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais.
Oui. Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre.
Enfin, je vais tout de même pas me faire enculer sous prétexte que c'est un ami.
Où est-ce qu'il a appris à négocier ?
D'après nos renseignements, on devait avoir affaire à un type tout seul. Mais là, on a un commando d'experts. En...
Salut à tous.
Salut Fabrice.
Bonsoir Monsieur Tronçonneuse.
Eh oui.
On a six mois de retard. Voilà, donc bonjour à tous, vous écoutez Le Masque et la Tronçonneuse.
Sur l'autre radio.
Sur l'autre radio, saison 26. D'accord.
Saison 6.
Oh là, ça ne rajeunit pas tout ça.
Bah non, mais déjà. Hein.
Ouais. Et moi, je suis très content parce que, en tant que Monsieur Masque, c'est mon année.
Ah oui.
Voilà. Il y a six mois, il y avait des gens très compétents qui disaient que je servais à rien, ça m'a beaucoup touché. Et depuis, ils sont revenus sur leur position. Et maintenant, ouais. Quand on se moque de moi, c'est 135 balles d'amende. Donc
c'est
ça, c'est pas mal.
C'est pas mal. Voilà. J'ai hâte que ce soit l'année de la tronçonneuse.
Ça vient, ça vient. Juste avant l'année du cannibalisme.
Ah oui, eh ben, normalement, ça devrait être dans pas longtemps. Hein, parce que là, on est bientôt... On est en mode pré-apocalypse, quand même.
C'est ça. La fin du monde, c'est pour bientôt.
Bah, écoute, c'est pour bientôt. Voilà.
Donc ce soir, comme de circonstance, vu que c'était une émission qu'on avait prévu de faire au moment où on nous a enfermés, en fait.
Ben, en fait, c'est ça.
Donc on avait prévu de faire une émission sur le huis clos.
Ouais, et c'était quand même, c'était, à l'époque, c'était plutôt à point nommé, alors que là, on est peut-être un petit peu en avance, parce que,
oui.
Parce qu'a priori, on va être bientôt à huis clos quand même.
Ça vient. Les écoles de commerce de la région nantaise y travaillent.
Localement.
Donc le huis clos, ce qui est un principe, c'est pas un genre en lui-même le huis clos, c'est un principe de narration.
Tout à fait, qui est pas propre au cinéma d'ailleurs.
Huis clos, la traduction du huis clos, c'est l'huisserie close, les huisseries closes, donc portes et fenêtres fermées. Donc c'est en gros la base, c'est on est bloqué, on peut pas fuir. En gros, c'est ça.
C'est ça, et toute l'intrigue se passe quasiment dans un même lieu.
Dans un même lieu, ça permet. Ça permet souvent d'adapter aussi des pièces de théâtre au cinéma. Enfin, c'est souvent par ce biais-là qu'on adapte des pièces de théâtre au ciné.
Et ça rajoute de la tension. Parce qu'en fait, c'est pareil, dans un clos, la plupart du temps, on suit les protagonistes du début à la fin, ce sont les mêmes.
Des fois, il y en a un peu moins à la fin qu'au début.
Ah, il peut y en avoir un peu moins à la fin qu'au début, mais il y en a rarement plus.
Sauf dans... Ah non, c'est pas un huis clos, j'allais dire Gremlins. Mais...
Sauf dans les Gremlins, exact. Voilà. Voilà. Donc si vous voulez voir un film sur les huis clos, ne regardez pas les Gremlins.
C'est pas les Gremlins.
Car
voilà.
Les Gremlins ne sont pas un film de huis clos.
C'est ça. Et le huis clos, donc, c'est dans un endroit fermé, mais un endroit fermé d'une taille petite, comme un cercueil, comme dans Buried, c'est ça.
Voilà, oui.
Ou une cabine de téléphone, comme dans Fall Game.
Ah ouais.
Mais ça peut aussi aller dans des trucs...
Dans une salle d'interrogatoire.
Garde à vue.
Garde à vue, qui est quand même, pour moi, quasiment un des meilleurs films de huis clos qui soit. Mmh.
Et également dans Le Vide Interstellaire, qui est infini, et enfin, en tout cas qui est très très grand, comme dans Gravity, qui est un huis clos.
Qui est un huis clos en espace ouvert.
En espace ouvert,
c'est voilà. Vrai.
Donc... On va en reparler de tous ces procès-là. Tous les genres peuvent être représentés dans le huis clos. Donc il y a la comédie avec des choses comme Le Dîner de cons ou en France c'est beaucoup d'adaptations de théâtre. Le Père Noël est une ordure aussi qui peut s'apparenter à un huis clos.
Oui, alors
il y a quelques scènes extérieures, mais elles ont été rajoutées pour la version cinéma. Mais c'est vraiment, ça se passe quand même beaucoup chez SOS Amitié.
Bonjour.
Appuyez sur le bouton. Mais c'est un genre qui fonctionne beaucoup pour le thriller et
pour le thriller, le drame.
Ouais. Le drame et puis le film d'horreur.
Et le film d'horreur.
Avec la cabane dans les bois.
Par exemple.
Voilà.
Le film qui s'en inspire.
Et le film qui s'en inspire, voilà. Donc moi, j'ai une petite liste de films comme ça qu'on va pouvoir passer en revue, parce que, à la différence de certains genres de cinéma, là, c'est pas un genre, c'est un procédé narratif, mais le huis clos a quand même donné beaucoup, beaucoup de bons films.
Oui, majoritairement, oui.
Voilà. Si on contrebalance avec le film de zombies, qui là, pour le coup, est un genre, qui a donné beaucoup, beaucoup de mauvais films. Quasiment que, d'ailleurs.
Oui, enfin... Après, c'est quand même assez souvent assumé.
Oui, en plus, oui.
N'ayons pas peur des mots.
C'est ça. C'est ça.
Vivant. Et alors, car le mot vivant. Enfin, ouais.
Aimons-nous vivants. On le fait comment ? On le fait dans l'ordre alphabétique ? Qu'est-ce que tu préfères ?
Moi, j'aime bien dans l'ordre alphabétique inversé en commençant par le milieu, mais on va le faire dans l'ordre alphabétique
on va faire dans
parce
l'ordre
que
alphabétique.
Ça fait 6 mois qu'on est en retard. Voilà.
Parce que ça commence très très bien avec un A comme Abyss.
Abyss, oui, un très bon film de James Cameron.
Que perso, je considère quasiment comme son meilleur film.
Mais James Cameron ne fait que des bons films.
C'est vrai, c'est un peu comme Tarantino. C'est
Voilà. Alors oui, Abyss, c'est assez singulier comme huis clos parce que ça multiplie les lieux en soi, puisqu'il y a quand même des scènes d'intérieur et des scènes d'extérieur. Mais on peut apparenter effectivement le fond sous-marin comme étant un endroit dont il n'y a d'ailleurs pas d'échappatoire.
C'est ça.
À part peut-être la scène finale.
Qui a évolué aussi, puisque c'était pas...
Qui n'était pas la scène finale initialement prévue dans le scénario, oui. Donc Abyss, effectivement, avec Peter Weller.
Non.
Non, c'est... Non.
Ed Harris.
Ed Harris, c'est l'autre.
Il y a Ed Harris et puis Marie-Elisabeth Mastrantonio. Qui est... Ce film est une tuerie. En plus, c'était à l'époque où, pour faire de grands décors, il fallait de grands décors.
Oui.
Donc, Cameron avait installé son décor de station sous-marine dans le réservoir d'une centrale nucléaire qui n'avait jamais été mise en fonction.
Voilà. Alors, c'est un film, à l'époque, quand il est sorti, j'ai envie de dire 1990, de tête.
C'est à peu près ça, ouais. Ouais, c'est ça.
Quand il est sorti, ce film-là était, mais comme beaucoup de films de Cameron, était une petite révolution en soi cinématographique, hein, parce que des effets spéciaux numériques.
C'était une des premières fois. Très bien réalisé.
Très bien réalisé. Une tension qui va crescendo en fait, parce que on ne sait jamais finalement ce que ces abysses nous réservent. On ne sait pas si c'est quelque chose qui va être mauvais, en tout cas, qui va attenter à la vie des héros du film ou pas. C'est-à-dire, il distille ça quand même tout le long pour finalement arriver à quelque chose qui soit plutôt contemplatif, en tout cas pour ce qui est de la vie extraterrestre. Et de fait, le danger vient d'ailleurs, elle vient de notre incapacité à maîtriser notre propre technologie, notamment.
Après, ça, c'est un film qui a 30 ans. L'humanité a depuis montré que c'était pas vrai, qu'on était capable de maîtriser ce qu'on faisait.
Oui, non, voilà. Bien sûr. Bah oui, à Fukushima, c'était complètement
fou. Fukushima, c'était, ouais, c'était pas
tout. Non, mais voilà, c'est ça, en fait. C'est intéressant aussi de ce point de vue-là, parce que je trouve que d'une certaine manière, le message d'Abyss, sans m'apesantir, nous annonce déjà Avatar, quelque part.
Oui.
C'est-à-dire qu'on est dans finalement cette espèce de même élan, quoi, critique du danger qu'on représente pour nous-mêmes et notre environnement.
Ce qui est quand même un thème récurrent chez Cameron.
Qui est un thème récurrent chez Cameron et qui, en fait, s'avère pas si idiot que ça. Enfin, qui est vérifiable.
Ce qui est bien aussi dans Abyss par rapport à Cameron, qui pousse techniquement ses films, je veux dire, au niveau de la technique de réalisation et au niveau de la technique qu'il montre dans ce film aussi, c'est que tout ça, c'est crédible. Parce qu'il y a tout un côté un peu futuriste par rapport au procédé de plongée qu'ils utilisent. Et tout ça, ça s'appuie sur une solide documentation de Cameron, et ça fait que le film fonctionne bien, en fait. Voilà.
Mais les films de Cameron, même les plus futuristes, hein, que ce soit T2 ou Avatar, de toute façon, il arrive à nous embarquer dans un postulat de départ qui, même s'il est effectivement... il peut être vérifiable ou pas, parce que dans Avatar, c'est pas vérifiable. Mais il arrive à nous imposer un postulat de départ auquel on va adhérer immédiatement. Donc il a une vraie habileté narrative, pour le coup, pour embarquer le spectateur, mais ça c'est 6 mois de confinement, où je me suis bouffé du Netflix tout le long, parce que le cinéma est trop loin, le spectateur dans dans son histoire, quoi. Donc c'est un très bon Cameron, je suis d'accord avec toi.
Moi, je l'aime beaucoup. Ensuite, il y a une des références du film en huis clos, c'est-à-dire Alien.
Ah oui.
Voilà. Qu'on
le huitième passager.
Et le huitième passager, qui est un film jalon pour plein de choses, science-fiction, horreur, enfin tout ce qu'on veut. Le deuxième, lui, c'est un film d'action dans un univers ouvert, alors que le troisième revient à...
Alien Cube, le troisième de David Fincher. Oui, alors il revient effectivement sur un environnement clos, mais il y a, même si j'ai un vrai attachement pour Alien Cube pour plein d'autres raisons, Il lui manque quand même le côté étouffant que pouvait apporter le premier. Parce que le premier, en plus, alors non seulement c'est dans un espace clos, c'est un vaisseau qui n'est pas si grand que ça, au final, c'est un transporteur, mais
oui, puisque le vaisseau est énorme, mais c'est une partie, la partie habitation n'est pas si grande que ça.
N'est pas si grande que ça, et beaucoup de choses se passent dans des coursives, ce qui rajoute encore de l'étouffement. C'est-à-dire, on est sur des petits espaces, dans petits espaces, etc. On sent moins ça dans Alien Cube, où on a des grands couloirs, où on a des grandes...
on n'a pas de plafond, des fois.
Voilà, c'est ça. Ouais. Le principe reste un huis clos, mais j'aurais pas dit qu'Alien Cube était vraiment un huis clos pour ces raisons-là et pour le fait aussi qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'habitants dans la prison d'Alien Cube. Ce qui en fait en soi quasiment une planète prison, quoi. Mais Alien, mais le premier Alien, il est suffocant par un moment.
Oui. Oui, et puis il se sert de ses propres contraintes, le fait que le costume est extraordinaire, mais on peut pas ne pas voir que quelqu'un est dedans. Et donc il est, malgré le physique hors norme de la personne qui interprète l'alien, comment il le cache pendant quasiment tout le film, et ça fonctionne.
Et ça fonctionne, mais c'est un peu comme c'est les contraintes de tournage comme Spielberg a pu avoir sur Les Dents de la Mer.
Les Dents de la Mer, ouais.
Où ça a tellement foiré au niveau des effets spéciaux qu'il peut le montrer qu'à la fin.
Un peu comme dans Le Combat de l'Ours, dans The Revenant, qui est beaucoup trop long.
Ah non.
Alors là, après, je vais parler, on va parler de L'Aventure du Poséidon, un film de catastrophe avec Gene Hackman. Parce que le film catastrophe aussi se sert souvent du huis clos, ne serait-ce qu'en avion. Même si de temps en temps, la carlingue s'ouvre pour laisser s'échapper deux ou trois passagers qui ne sont pas trop d'accord. Mais L'Aventure du Poséidon, qui pour le coup est un film catastrophe très réussi.
Oui, oui, qui. C'est un film qui était en cette mouvance-là, où on en avait eu quelques-uns auparavant sur des immeubles, sur des avions.
La Tour Infernale, la série Airport, ouais. Jusqu'au magnifique Concorde 80 avec Alain Delon. Ouais. Non, je blague. Il est pas bien.
Non, j'ai eu une petite perle. Si on va peut-être parler, y a-t-il un pilote pour sauver l'avion, qui est aussi en soi un huis clos, mais
oui, mais bon, ça c'est parce que, enfin, ceux qui ont fait le Macho Grande nous comprendront.
Voilà.
Enfin. Et puis il y a un autre film de genre, mais là c'est obligé. Il y a un genre cinématographique qui est forcément quasiment à chaque fois du huis clos. C'est le film de sous-marin, qui est déjà un genre en lui-même. Donc là-dessus, il y a des films comme Das Boot, très réussi, ou USS Alabama, qui est très sympa aussi. Plus pour le casting, l'opposition entre Denzel Washington et puis toujours Gene Hackman.
Oui, encore lui, oui.
Voilà. Donc le film de sous-marin aussi, de fait. Voilà, parce que quand on ouvre une porte, ça devient...
Il n'y a pas trop d'échappatoire.
Non, le film sombre.
Il y a des Russes qui ont essayé, mais...
Après, moi, j'ai un petit film. Un film qui est daté, un film qui est un peu oublié, mais un film que je trouve très sympathique, qui a un huis clos sur la mer, sur un voilier, c'est Calme Blanc.
Oui.
Que je trouve très très bien. C'est le film où j'ai découvert Nicole Kidman, d'ailleurs, avec qui il y a Sam Neill aussi, et puis, j'ai oublié son nom, un des acteurs qui joue dans Titanic, Billy Zane, je crois. Billy Zane.
Ah, Billy Zane,
voilà.
Oui.
Et là, c'est un petit film où il y a un naufragé qui se retrouve sur un bateau avec un couple qui est en transit. Et ça vire au thriller. Voilà.
Oui, et c'est complètement à huis clos, puisque, effectivement, à nouveau, pas d'échappatoire, on est en pleine mer.
Et il est plutôt bien fait.
Il est plutôt réussi, oui.
Plutôt réussi, oui. Un autre sur un bateau aussi, mais plus gros, Captain Phillips.
Oui.
Qui, lui, est sorti récemment avec Tom Hanks, qui relate une histoire vraie, qui est racontée par le commandant, mais a priori, il est un peu... Oui, c'est...
Ah oui, j'entendais de la trompette, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il nous fait, Joël? Il nous passe de la musique pendant notre émission?
Non.
Mais non, c'est la trompette d'à côté.
C'est la trompette d'à côté.
Ah. Excuse-moi.
Pas de souci. J'étais sur quoi, là?
Captain Phillips,
oui. Donc là, c'est sur un porte-conteneur qui est attaqué par des pirates. Quasiment tout le film se passe sur le bateau. C'est réalisé par Peter Greenwood, c'est plutôt bien foutu. Moi, ce que j'adore dans ce film, le film en global, je l'aime bien, mais ce que j'aime beaucoup, c'est l'introduction du film, qui est très courte et qui place tous les personnages, en tout cas le personnage de Tom Hanks, en quelques plans, sans trop de paroles et tout. C'est vraiment bien, bien fait. Voilà. À poursuivre, il y a le crime de l'Orient Express aussi.
Oui, alors oui, bien sûr.
Qui a eu le droit à un remake que je n'ai pas vu. Je ne sais pas si toi, tu l'as vu avec...
Absolument pas.
Bon.
Non.
Donc,
bah, tous les films un petit peu comme ça, hein, enfin, tu les citeras sûrement, mais... alors, comment on dit maintenant ? Ils étaient 10 ?
Ils étaient 10, ouais.
Voilà.
Ouais, c'est vrai.
Bah oui, il faut le dire comme ça maintenant.
Après, moi, c'est les endroits, donc il fait ce qu'il veut. Voilà.
Bref, voilà, ou à couteau tiré aussi, plus récemment encore avec.
Oui. Daniel qui est un petit peu moins huis clos parce qu'il y a quelques scènes.
Quelques scènes extérieures aussi, oui.
Mais il y a quand même la maison qui est extraordinaire et la famille qui est. C'est un film que j'ai vu pendant le confinement. Et
d'accord. Et que tu as aimé.
Ah, c'est. Mmh. Daniel Craig est extraordinaire.
Bah, c'est surtout que c'est l'anti-Hercule Poirot, quoi.
Ah oui, oui.
Parce qu'en fait, c'est un suicide. Bref.
Oui, et puis il y a aussi... ah, j'ai oublié son prénom, son nom. Captain America qui joue dedans, qui est détestable.
Voilà. Oui, oui, entre autres. Et puis, il y a... Madame Curtis.
Jimmy Lee.
Jimmy Lee Curtis, je te remercie. Qui est exceptionnel.
Oui. Enfin, tout le casting,
casting est bon.
Le casting est bon, ouais. Le film est bon, enfin, si vous avez l'occasion, profitez-en.
À voir.
Voilà.
À couteau tiré, on le redit.
Un autre film que j'ai revu pendant le confinement, qui est aussi un huis clos, mais un huis clos particulier, c'est Délicatessen, qui est une perle. Voilà, c'est.
Alors c'est bien que tu en parles, parce que moi je ne l'aurais pas mis dans les huis clos, mais effectivement.
Parce qu'en fait, alors il y a le huis clos de l'immeuble.
De l'immeuble.
Mais il y a aussi le huis clos du quartier, parce qu'on ne voit rien en dehors du quartier.
Voilà. Mais on ne sait même pas s'il y a un quartier d'ailleurs.
On ne sait même pas s'il y a un quartier, on ne sait même pas. On sait pas grand-chose. Sauf que l'immeuble vit en cadence.
Et c'est marrant, tu parles de Délicatessen, et ben moi je vais t'en rajouter un que tu n'as sûrement pas dans ta liste, c'est De la mort et de la mort.
Que j'aime beaucoup.
Que j'aime beaucoup aussi.
Oui, avec...
avec Francis Adjie de Lazaro.
Oui, et voilà. Rupert Everett.
Rupert Everett, et qui en fait est un huis clos en soi, parce qu'il y a beaucoup de scènes extérieures, etc. C'est un film qui se passe dans un village, on pense qu'on est dehors, mais en fait on est dans une boule à neige. C'est un huis clos en soi, en fait. Et tout s'inverse quand la boule à neige est inversée et que la neige retombe.
Et c'est un film d'horreur français.
C'est un très bon film. C'est un très bon film, ouais. Tout à fait. Très poétique, d'ailleurs.
Qui doit dater du milieu des années 90,
oui,
à peu près.
Oui, c'est ça. Ouais. Avec une musique, si mes souvenirs sont bons, de... Je me demande si c'est pas Marco Beltrami.
Je crois que c'est ça, ouais.
Qui est exceptionnel aussi.
Ouais, un film à voir.
Mais tu vois, tu parles de délicatesse. J'en profite, tu vois, je rebondis parce que quand tu parles de délicatesse et du quartier, je me dis oui, on voit rien autour du quartier, donc il n'y a rien autour. On peut imaginer, et tout de suite, je pense à De la mort et de la mort.
Oui, c'est un peu le procédé aussi dans Dark City.
Et j'allais te citer Dark City juste derrière, voilà. Sans spoiler, c'est un huis clos à l'échelle d'une ville.
À l'échelle d'une ville et.
Et pour le coup, on a vraiment un nombre de protagonistes restreint. Et qui est identique du début à la fin, quasiment.
Quasiment, ouais.
À un ou deux près.
Dans les films récents aussi, que là, pour le coup, j'avais vu sur grand écran avant le grand confinement, c'était Get Out.
Ça pourrait être un très bon titre de film, ça.
Oui, bah, je pense qu'on va se bouffer des comédies à la con, et puis...
Get Out, oui, alors un film que j'ai découvert pendant le confinement, pour ma part.
Oui, qui est, de mon point de vue, très réussi, sauf la fin.
Eh bien, moi, j'ai beaucoup aimé la fin, mais on peut en parler deux minutes,
parce
si tu veux.
Parce
je le trouve plus réussi que Us.
Que je n'ai pas vu.
Voilà.
Mais j'ai beaucoup aimé le côté... surtout avec ce qui s'est passé récemment aux États-Unis.
Oui,
le contrôle de police, la tension, elle est extraordinaire.
Peut-être on parle vite fait du pitch. Get Out, c'est un homme noir, en fait, qui est avec une femme blanche. Donc, c'est un couple mixte. Et ils vont dans le sud des États-Unis rencontrer pour la première fois, après 4 ou 5 mois de relation, enfin, lui va rencontrer sa belle famille qui est blanche et qui vit dans une gigantesque maison de type colonial.
Oui, mais qui sont démocrates et qui se présentent comme des personnes pour l'intégration, pour la mixité, enfin, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il y a un pet quelque part.
Voilà, un film de Jordan Peele.
Oui, Jordan Peele. Et moi, ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est la tension qui monte tout au long du film. L'acteur principal...
Est très bon.
Est très bon.
Oui, il joue très bien. Tous jouent très bien. Hein.
Tout joue très bien.
Même son sidekick. Le côté du gardien. Enfin, pas le gardien, mais c'est un... Type un gardien de musée, là, qui...
Oui.
Voilà, qui va venir un peu à la rescousse à la fin. Même lui, je le trouvais au départ un peu lourd et finalement très réussi.
Mais moi, le problème, c'est la fin. Mais vraiment, la toute fin, où le film part dans un peu un autre genre. Enfin, c'est plus la même façon de raconter.
Alors moi, ce que j'ai aimé dans la fin, mais peut-être qu'on n'a pas perçu les mêmes choses, ce que j'ai aimé dans le film, c'est qu'à aucun moment, le personnage le dit très bien, il n'est pas très sportif, c'est pas un mec qui sait se battre, etc. Et jusqu'à la fin, en fait, il ne sait pas se battre. C'est-à-dire qu'il se fait prendre des volets de bois vert par les méchants du film. Et même à un moment donné où sa vie est en jeu, on se dit, ouais, il va se réveiller, puis il va se rappeler qu'en fait, il a fait un peu de karaté quand il était à l'école. Et non, on n'a même pas ça, il se prend un coup de pelle, quoi. Enfin, le mec, il est mauvais, il ne sait pas se battre, quoi. Et finalement, ce n'est pas ce qu'il sauve de se battre.
Non.
C'est, voilà. Et moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé le côté du personnage qui est écrit de bout en bout de manière logique. On a beaucoup de films comme ça, au dernier moment, le mec, il a un sursaut, puis hop, il arrive à mettre la pêche qui étale le méchant, et là, ça n'arrive pas. Et moi, ça, j'ai aimé. Cet équilibre du personnage jusqu'au bout. Enfin, voilà, il sait pas se battre, il sait pas se battre. Jusqu'au bout, il sait pas se battre. Ça le sauve pas.
Ouais, c'est le... Après, je vais pas spoiler la fin, parce que c'est quand même un film récent, mais c'est, oui. Ouais, c'est tous ces trucs-là.
Mais j'ai préféré... Ouais. J'ai préféré Get Out à Us.
D'accord.
De Jordan Peele.
Que j'ai sur ma liste, ouais.
Voilà, à voir, mais...
Le film qui suit, c'est... on passe au I, parce que voilà... Il y avait Gravity aussi. Gravity, qui est un film, pour moi...
Mais on peut en parler. Enfin,
si tu veux, hein.
Gravity. Ouais.
Gravity, moi, c'est... c'est un film que j'ai vu deux fois, une fois au ciné, et puis une fois chez toi.
Tu l'as vu chez moi, oui.
Sur un support 3D. Assez sympa, 3D. Je suis pas très 3D, mais ce film-là, ça fonctionne.
Ça fonctionne très bien, ouais.
Sans doute parce que c'est dans l'espace et qu'il y a une majeure partie du temps, le fond de l'écran est noir, ce qui fait que ça fatigue beaucoup moins que de la 3D classique, où ça remue dans tous les sens, et puis que le film n'a pas été prévu en 3D, on fait des petites modifs pour que ça ressemble à de la 3D. Là, c'est un film qui a été pensé pour la 3D. Quand j'étais gosse, je rêvais d'aller dans l'espace, Gravity m'en a donné un peu le goût. Voilà, ouais. Maintenant, je sais que je ne veux pas y aller.
On peut en parler rapidement, le film est un peu plus ancien, c'est un film de Alfonso
Cuarón,
c'est ça. Où on va retrouver.
Il y a Sandra Bullock.
On retrouve pas beaucoup d'acteurs, hein, parce qu'il y en a que deux finalement.
Trois.
Enfin, trois, oui. Bon, Sandra Bullock, effectivement.
Il y a trois, mais deux qu'on voit et un qu'on entend, mais qu'on entend que dans la VO. Même s'il est doublé, c'est un vrai acteur qui le double aussi. C'est Daris, qui fait la voix du contrôleur du contrôleur
sol.
De vol, en fait.
Au sol, ouais.
Voilà, au sol. Un rôle qu'il avait déjà eu dans le film Apollo 13 de mémoire.
Peut-être.
Qui est aussi un huis clos, d'ailleurs, un petit peu.
Oui. Enfin, je l'aurais pas mis en huis clos, Apollo 13. Mais oui.
Ah, c'est pas faux, parce qu'il y a toute la partie où on voit les familles.
C'est
où
un
on
film
voit...
historique. Enfin, pour moi, c'est plutôt une fresque historique, oui. Comme... voilà.
Je m'incline. Et...
Merci. Plus bas encore, s'il vous plaît. Et donc, voilà. Et on suit donc plutôt Sandra Bullock, pour le coup. Et alors, moi, alors là, si vraiment il y a un film où la femme m'a déçu, c'est ce film-là. Par contre.
On est d'accord.
Voilà. J'aurais préféré qu'on soit embarqué dans quelque chose un peu à l'Interstellar, qui soit un peu délirant. Voilà, on ne sait pas si on est dans la réalité ou si on est dans un délire d'une nana qui est en train de mourir.
Oui.
Plutôt qu'un film qui se termine en happy end comme ça, oui, où la fin m'a laissé un petit peu interdit en me disant bah non. Enfin, la fin rend tout le reste incrédible. Ça se dit, c'est incrédible. A permis en fait à tout le reste de ne pas être crédible.
Oui.
C'est mieux comme ça. Parce qu'on n'y croit pas à cette fin, quoi.
Non.
On n'y croit pas une seconde qu'elle s'en sorte. Donc, ah oui, elle s'en sort, en fait. Voilà, désolé.
Oui, elle s'en sort, et puis il y a un petit...
Oui.
Il y a un petit côté religieux qui est particulièrement...
Oui, il y a... Et puis, la manière dont elle s'en sort, on sait comment... Enfin, à quel point les personnes qui passent du temps dans l'espace, en fait, peuvent être affaiblies à leur retour sur Terre. Bon, elle s'en sort, elle sort de la capsule, tout va bien. Mm. Voilà. Voilà une bosse, quoi. Mais en tout cas, en revenant sur le sujet, oui, c'est un huis clos parce que finalement tout se passe en orbite de la Terre. On est dans le vide interstellaire, mais on est en orbite et on est coincé sur une ellipse. Enfin, oui, c'est ça, sur une ellipse, oui. En fait.
Et puis elle est malgré qu'elle soit dans le vide interstellaire, elle est quand même soit dans sa combinaison, donc enfermée dans très petit, soit dans des capsules spatiales, la station. Station chinoise, qui font que c'est très, très restreint, en fait. Voilà. Donc, elle est toujours dans des petits endroits. Et puis, il y a comme une sensation d'être oppressé dans ce film, de comprendre quand elle respire fort. C'est ça que je trouve que le film amène bien. C'est vraiment cette sensation d'être oppressé, ouais, d'être avec elle. Voilà. Ouais. Il y a quelques plans comme ça, notamment le premier plan où il y a la station, la navette qui est détruite,
oui.
Où c'est un plan continu. Alors les plans continus truqués, maintenant ça n'a plus trop d'intérêt le plan continu, parce que enfin, ça n'a plus trop d'intérêt. C'est pas ça que je veux dire, mais c'est plus une performance en fait, puisque...
Dans ce film-là, ça passe bien. Enfin,
c'est ce que je veux dire.
Si on prend Revenante, par exemple, l'intro qui est un plan séquence truqué...
Ça n'a pas d'intérêt.
Et qui d'ailleurs... paradoxalement du même réalisateur, il me semble.
Non, c'est Iñárritu.
Ah, c'est Iñárritu.
Alors, il y a un truc facile pour reconnaître les deux entre Cuarón et Iñárritu. Cuarón a du talent.
Oui,
Iñárritu, il a surtout du melon. Voilà. Iñárritu, c'est quelqu'un qui explique comment on fait bien du cinéma.
Cuarón le fait.
Sauf qu'il est extrêmement surévalué, alors que Cuarón, il a quand même les fils de l'homme. Et puis, ne serait-ce que Gravity et... Voilà.
Oui, et donc Iñárritu, quand il fait un plan séquence, c'est beau techniquement, mais on n'y croit pas. Dans Gravity, on y croit. C'est-à-dire, on est embarqué d'emblée.
Quand elle prend l'explosion, elle se retrouve éjectée de la navette, on se retrouve dans un plan séquence où la caméra tourne et change d'axe de rotation sans vraiment qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire qu'à un moment, la caméra est fixe et on voit Sandra Bullock qui tourne. Et puis, sans trop qu'on fasse attention, la caméra prend la rotation de Sandra Bullock. Et là, c'est toutes les étoiles autour qui se mettent à tourner, puisqu'on suit la rotation de Sandra Bullock. Et tout ça dans un mouvement qui, en plus, nous rapproche de Sandra Bullock jusqu'à même rentrer dans son casque.
Oui, et on suit...
Voilà, et c'est vraiment, ce plan, il est extraordinaire.
Il confère à l'étouffement, c'est-à-dire qu'on est à l'extérieur et d'un seul coup, on est dans sa combinaison. Quoi.
Voilà, et c'est tout petit, et c'est un faux plan séquence, parce que comme Iñárritu, c'est truqué et tout ça, sauf que ça raconte quelque chose. Et c'est pas juste
de l'esbrouf. Et on se fait surprendre.
C'est ça.
En plus, on est surpris à un moment donné d'être dans le casque.
C'est ça, parce qu'on est scotché par tout ce qui vient de se passer, et puis on se dit, mais mince, on n'était pas dans la combinaison au départ. Donc une vraie expérience, pour le coup, un vrai film de cinéma, sauf qu'on a un écran géant à la maison.
Ah bon, qui ?
Je sais pas, voilà. Alors après, il y a un autre film, donc on passe au OI, c'est un film que j'ai découvert dans un vidéoclub, ça existait encore à l'époque.
Qu'on explique un vidéoclub, c'est un truc qui existait bien avant le confinement.
Oui, et pour dire à quel point j'étais content, c'était à l'époque où... Il restait quelques cassettes vidéo et il passait en DVD. Voilà.
J'étais pas né, je crois.
Donc, non, peut-être pas. Peut-être pas. Et ce film, c'est Identity.
Eh oui.
Et Identity, c'est un film qui a provoqué chez moi le regret de ne pas l'avoir vu au cinéma.
Alors, c'est le film. Alors, on va pas être d'accord parce que c'est un film que j'ai vu arriver à 100 km. C'est-à-dire qu'en fait, comme toi, hein, content de le découvrir et arriver. Ça me fait ça fréquemment sur des films à Switch, en fait. Arrivé un petit peu avant la moitié du film, j'ai compris. Et dans ces cas-là, je subis le film. C'est-à-dire que je me dis, non, c'est pas ça. Et tout le film, après, va dans ce sens-là. Je dis, c'est ça quand même, c'est dommage, c'est trop facile. Voilà.
Moi, je l'ai pas vu venir, twist final, mais c'est pas ça que...
Ça m'a fait le même effet sur Seven. Hein.
Je sais, mais là, tu me l'avais pourri, Seven, et maintenant...
Voilà. Et maintenant, tu ne vois plus pareil.
Je sais plus lequel je pourrais te pourrir comme ça. L'épisode 9 ?
L'épisode 9, d'accord.
Est-ce que je peux te le pourrir ?
Oh non.
Non, il est tout pourri. C'est le twist final, en fait, je m'en foutais un petit peu. Je suis pas tombé de ma chaise. C'est vraiment toute l'histoire qu'il y a avant. Le motel, la tempête, les différents personnages. J'ai vraiment apprécié ce film. Voilà.
Oui, non, mais je comprends. Moi, quand tu arrives à la fin, tu dis évidemment que c'était ça.
En fait, c'est l'histoire de 10 personnes qui se retrouvent dans un motel et une tempête va les empêcher de s'en aller. Donc, les routes sont coupées, bref, tout ça. Et puis, au fur et à mesure, ces 10 protagonistes commencent à mourir. Donc, forcément, il y a le meurtrier parmi eux. Voilà.
Le film est assez ancien pour que tu ailles jusqu'au bout, hein.
Le film est assez ancien pour aller jusqu'au bout. Mais en fait, on va découvrir que, un peu comme dans Glass... Ah mince. Non, pas dans Glass, dans Split. En fait, ces 10 personnes sont 10 personnalités d'une.
Dans la tête d'une seule et même personne.
D'une seule et même personne, ouais.
Où il y a une personnalité qui va éradiquer les autres.
C'est ça. C'est un film qui est réalisé par James Mangold, qui, à la différence d'Inaritu, lui aussi a beaucoup de talent. Enfin, Inaritu, il a du talent.
Avec une. Le casting du film est plutôt sympa.
Ah, le casting est extraordinaire, puisqu'il y a. Après, c'est des acteurs qui ont. Certains ont un petit peu disparu, enfin sont moins présents, mais il y a quand même John Cusack, Ray Liotta, ouais, Amanda Pitt, Alfred Molina. Voilà. Donc, et Rebecca De Mornay.
Donc, qui a complètement disparu, je crois, d'ailleurs. Qui avait fait un film, c'est elle qui jouait dans Jeune fille, recherche appartement, il me semble. Non,
non, c'était. C'était comment Fonda.
Ah, Jane Fonda.
Ouais. C'est pas Jane Fonda, c'est sa fille. Bridget Fonda. Avec la fille qui joue dans. Qui joue dans Les Huit Salopards, dont on pourrait parler, puisque c'est une référence dans le huis clos maintenant, Les Huit Salopards.
Oui. Tout à fait, oui. Ah oui, c'est vrai. Un des très bons films de Tarantino.
Un de ses 9 meilleurs films, je crois. C'est. Attendez, je vais retrouver son nom parce que sinon ça va me.
Alors, je vais faire un mea culpa en direct. Mea culpa en direct, j'ai fait un mélange, j'ai confondu Jeune fille recherche appartement avec La main sur le berceau.
Qui est bien aussi. Et donc c'est Jennifer Jason Leigh,
oui.
À qui Kurt Russell dit si je mets mon coude sur ton nez, c'est que je veux que tu fermes ta gueule.
Bon, un truc dans ta genre, bouche.
Dans ta bouche, ouais.
Mon coude dans ta bouche.
Donc voilà, ça c'était Identity que j'aime bien aussi. Un autre film, alors le suivant, c'est un film que j'ai regardé parce que tu m'as dit de le regarder, parce que je voulais pas le regarder.
Ouais, mais des fois je dis des trucs comme ça, il faut pas le faire.
Et j'étais bien content de le regarder, c'était d'accord. The Mist.
Eh oui. Voilà. The Mist, un film de Frank Darabont.
Qui est un peu, d'un certain côté, qui est un peu comme Délicatessen, c'est-à-dire qu'on se retrouve à huis clos dans un supermarché,
oui.
Mais aussi dans un huis clos dans la ville, puisque la ville
est envahie par une brume mortelle.
C'est ça.
Alors mortelle parce qu'elle elle charrie avec elle des monstres absolument abyssaux et terribles qui laissent aucune chance aux humains qui s'aventurent. Le film est extrêmement réussi. Alors, hormis le fait que ce soit Frank Darabont qui a la réalisation et qui a énormément de talent aussi. Hein, On peut citer Les Évadés.
La ligne verte.
Et puis on peut citer aussi les premiers épisodes, enfin la première saison de Walking Dead,
oui.
Puisqu'il avait été showrunner dessus. Le film a été tellement réussi que Stephen King, qui quand même, en principe, n'aime pas les adaptations qui sont faites de ses livres, parce qu'il trouve toujours que c'est raté, que ça ne correspond pas à ce qu'il voulait dire, avait pu dire de The Mist que s'il avait eu l'idée de la fin, telle que Frank Darabont l'avait tournée, il l'aurait mis dans son livre. Parce que dans sa nouvelle, c'est une nouvelle qu'on peut trouver dans un recueil qui s'appelle Brume, parce que le nom de la nouvelle en français, c'est Brume. Voilà. Mais il n'avait pas pensé à faire une fin comme a pensé Darabont, que je trouve d'un cynisme absolu. Quoi. Vraiment.
Elle est, c'est une fin énervante.
Oui, c'est une fin énervante. Et puis, elle confère bien au huis clos aussi, puisqu'elle se termine en huis clos, en fait.
Oui.
Donc,
ouais. Alors, on va peut-être se faire une petite pause musicale, quand même.
Et oui, parce qu'on parle, depuis une demi-heure.
D'ailleurs, juste pour parler de The Mist, il y a eu aussi une adaptation en série télé qui est carrément catastrophique.
Ah, qui est une catastrophe. Ah. Je suis d'accord avec toi.
C'est tout l'intérêt de l'histoire et...
Bah, c'est là où une série... alors déjà, c'est une nouvelle, donc c'est quand même un format assez petit, hein, une nouvelle. Hein. C'est un format, je sais pas combien fait Brume, mais peut-être une trentaine de pages gros max. Donc c'est petit. À l'échelle d'un film, c'était quand même sacrément gonflé d'oser faire ça, parce qu'il tient un peu plus d'une heure trente. En série, il faut tirer en longueur. Donc faire des personnages écrits sur plusieurs épisodes, des intrigues, écrite sur plusieurs épisodes. Alors forcément, dans une série américaine, il faut qu'il y ait des sentiments, il faut qu'il y ait de la haine. Je vais être très honnête, hein, j'ai tenu 2 épisodes avant de dire que non, c'était de la merde.
T'as tenu plus longtemps que moi.
Parce que moi c'est donne toujours une chance à un premier épisode.
Ah mais c'est bien, hein, c'est pas une critique, hein, parce que moi, c'est pour ça que j'accroche à très peu de séries, c'est que... les séries, pour que j'accroche, il faut souvent que j'arrive en saison 2. Et ça me donne envie de revenir en arrière, regarder la première saison, le temps que ça s'installe. Et c'est souvent le premier épisode, il est pas...
Premier épisode installe l'intrigue. Donc on peut y trouver de l'impatience ou de la frustration à ne pas voir des choses se développer. C'est pour ça que je laisse la chance à un deuxième épisode. Mais là, non.
Non, non, non.
pas au-delà.
Allez, petite pause musicale avec Chelou, Out of Sign.
Ouh.
Allez, zou. Ça finit d'un coup comme ça, disons.
Oui, on s'attendait pas. Nous, on discute et ouais, pof, ça s'arrête.
On discutait de plein de choses, la bonne gestion de ce qui arrive.
On parlait de Mad Movies, en fait. On parlait des hors-série Mad Movies, puisque j'ai ramené à mon ami le masque, parce que je voudrais qu'il garde son masque encore un peu. Je lui ai ramené un petit Mad Movies hors-série sur le Indiana Jones, qui est très bien.
Oui.
Et il y en a un qui arrive bientôt, on va pas en faire la pub, mais quand même, c'est sur la saga des Hellraiser.
Ouais. Et, sur Clive Barker.
Voilà, Clive Barker notamment. Oui, enfin, je dis Hellraiser parce que c'est le film le plus connu de Barker, mais c'est pas le seul. Et donc, je disais que j'allais contribuer sur le Ulule au Mad Movies de Clive Barker.
Oui, parce que c'est souvent, pour pas dire tout le temps, les Mad Movies classiques sont.
Oui, c'est de la qualité.
Sont très, très pointus.
Ouais.
Ça se lit très très bien.
Voilà.
C'est des belles photos, c'est bien écrit.
Ouais,
on apprend plein de choses.
On apprend plein de choses. Voilà.
Voilà.
Enfin, pour peu qu'on aime le cinéma, on apprend plein de choses.
Et là, c'est la saga Indiana Jones qui est quand même une saga de trois excellents films.
et le royaume de cristal.
Et le cristal, ouais, le crâne de cristal, que j'ai revu l'autre jour, mais qui aurait pu être mieux. Mais bon, saloperie d'incrustation ratée, et puis...
Oui, et puis je crois que c'est trucs. Du fan art, enfin c'est du fan service en c'est fait. Ça, et c'est malheureusement, ça marche pas toujours. Pourtant, c'est Spielberg.
Et ouais.
Ça sera le plus mauvais film de Steven Spielberg.
C'est ça. Non, il en a quand même quelques pourris. Hein.
Pas beaucoup.
Qu'est-ce que j'avais trouvé d'à chier ? Ça va me revenir. Alors.
On en était à I. Et on venait de finir avec Identity.
Identity. Alors on était à M, avec The Mist.
Ah oui, M, exact.
Voilà.
Bah, dans The Mist, il y a un I.
Donc il y a encore un film de sous-marin à K, c'est K-19, Le Piège des Profondeurs, oui. Qui est plutôt pas mal.
Bof. Ouais, moi, j'ai pas.
Non,
pas
mais ce que j'avais aimé, c'était que pour une fois, ça faisait longtemps, on n'avait pas vu Harrison Ford dans un rôle intéressant.
Voilà. Y en a un qu'on n'a pas fait assez, mais on peut le faire à U. C'est Un cri dans l'océan.
Oui.
Qui est, moi j'avais bien aimé par contre.
Qui est un peu le film surprise d'un été.
Oui.
Où on n'en attend rien et puis finalement on passe un bon moment.
C'est ça. Et c'est pas dénué d'humour en plus pour un film d'horreur, ce qui est plutôt bien vu.
Et Stephen Sommers, c'est pas ça ?
Stephen Sommers,
ouais, qui est plutôt un bon faiseur aussi.
Oui, oui. Il se débrouille bien, mais on lui doit les momies.
Les momies qui sont. Quand elles sont sorties, moi je trouvais ça un peu faible, les momies. Ça l'est un petit peu, mais c'est comme les films qui ont rendu le mieux hommage aux films type Indiana Jones.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont quand même un peu raccord avec Indiana Jones. C'est quand même plein d'humour. On a un Brendan Fraser
qui est très bien, et le personnage est très bien.
À cœur joie. Enfin, voilà.
C'est
Le troisième est peut-être en deçà des deux autres, mais puisque c'était La Tombe du Roi Dragon, mais ouais, ça se regarde.
Le deuxième avec le Roi Scorpion à la fin, c'est quand même dur. Quand même.
Oui, parce que une animation image par image à la Ray Harryhausen sur fond d'incrustation par ordinateur, ça rate.
Oui.
Voilà. Mais donc, c'est pas grave. Mais c'est les débuts de The Rock au cinéma. Ça se salue au moins pour ça.
Oui, il avait aussi joué dans la suite de Get Shorty avec Travolta. C'était. Oh, je sais plus.
Get Shorty 2, peut-être ?
Non, c'est pas Get Shorty 2. Et où il jouait un acteur un peu efféminé. Il était très, très bon d'ailleurs.
Pas, très honnêtement. J'avais beaucoup aimé le premier Get Shorty, je me souvenais pas d'une suite.
Alors là, on revient dans l'espace, mais sur un satellite avec Outland.
Ah oui.
Qui, lui, pour le coup, est un huis clos, puisqu'il se déroule dans une colonie minière sur un satellite de.
Alors, on le resitue, c'est un film avec Sean Connery.
Avec Sean Connery qui doit dater des
années 80.
Années 80, ouais.
Tout
ouais.
à fait. Ouais. Et effectivement, oui, tu as raison. Ça se passe dans un satellite minier.
On sent un peu la patte d'Alien aussi là-dedans, parce que le côté spatial moderne,
1981.
Voilà, ouais, tout à fait. Qui c'est qui réalise ? C'est Peter Yams, c'est ça ?
C'est Peter Yams, ouais. Tout à fait.
Et
avec Peter Boyle, c'est vrai que je me souviens pas, Peter Boyle joue dedans.
Et un film de huis clos qui se passe dans le futur, mais qui ressemble vachement à un western quand même.
Complètement.
Et qui est très, moi je le trouve très réussi, avec des maquettes très sympas à la Blade Runner. Enfin, c'est.
Ouais, Sean Connery joue très très bien ce film.
C'est un très bon film. Là, on va dans un huis clos tout petit, c'est Phone Game.
Oui. Dans Phone une Game. De téléphone. Alors ce film-là, il est assez surprenant, pour plein de raisons. D'abord par son réalisateur.
Joel Schumacher.
Parce qu'il faut savoir que Phone Game intervient quand même, c'est un sacre de la vague pour ce réalisateur-là, oui. Joel Schumacher, au point qu'à Hollywood, quand un film était raté, on disait qu'il était schumarisé. Et c'est le film qui a permis de mettre fin à cette vaste blague. Parce que Schumacher, je ne sais pas trop comment on dit d'ailleurs.
Je ne sais pas trop.
Schumacher, parce que Schumacher, il est toujours. Schumacher, c'est le pilote. Donc Schumacher, oui. Et effectivement, il avait fait quelques films sympas, mais ça cassait pas des briques jusqu'à ce qu'il se ramasse violemment avec notamment un Batman.
Batman et Robin, ouais.
Voilà. Le film où George Clooney avait dit qu'il avait tué Batman.
Il n'est pas tort.
Il n'a pas tort. Et puis, c'était une catastrophe, ce film. Et donc, il revient par la petite porte avec ce film-là. On en a fait d'autres, hein, mais celui-ci est plutôt réussi. Et on a effectivement toute une intrigue qui se passe dans une cabine téléphonique. Donc, pendant quand même une heure et demie, il faut le faire.
Oui. Et il a... En plus, le film est court. Il dure 1h20.
Oui, 1h20, oui, il ne dure pas
1h20. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il... Enfin, il y a pas besoin de plus, en fait.
Il n'y a pas de longueur.
Il n'y a
pas de longueur, c'est suffisamment bien rythmé, quand même, pour nous tenir en haleine, parce que la caméra ne change quasiment jamais de... Enfin, la cabine téléphonique est quasiment tout le temps dans le champ, en fait. Donc, à aucun moment, on est auprès de la famille, auprès de, d'autres personnes qui pourraient assister aux choses de loin, etc. C'est-à-dire, tout est du point de vue de la personne piégée dans la cabine. Puisqu'elle a au téléphone un type qui lui dit que bah, il a son arme avec son fusil de précision braqué sur lui et que s'il sort de la cabine téléphonique,
il le bute.
S'il raccroche, il le bute. Voilà. Et il faut savoir que le tireur, on ne le voit jamais, on l'entend.
Ouais.
Et dans la version originale, il me semble que le tireur, c'est... Ça y est, son nom m'échappe, monsieur.
C'est Kiefer Sutherland.
Kiefer Sutherland. Merci.
Après, le souci, c'est que contrairement à Seven, ils ont mis son nom sur la jaquette, puisque je l'avais vu en location. Ouais. Parce que c'est à peu près au même moment que Identity, d'ailleurs, c'est la même année. Donc, voilà.
Ah, j'aurais vu après. Mais
c'est oui, comme quand il y a le générique de Des 8 salopards et qu'on voit Channing Tatum. On se dit qu'à un moment, il y aura Channing Tatum. Ce qu'il y a de bien, c'est que Channing Tatum, il arrive et c'est comme du Tarantino. Voilà. Là, c'est un peu ça. C'est vrai que c'est un film intéressant. Donc, Schumacher, il s'est fait railler pour son Batman et Robin, qui était comme dans la continuité de Batman Forever.
Oui,
en plus chargé quand même.
Il s'est pris quelques autres pelles au passage.
Après, c'est pas un mauvais réalisateur parce qu'il a quand même Génération perdue. Il a l'expérience interdite qui est plutôt pas mal.
Moi, l'expérience interdite, j'ai encore un peu de mal avec ce film, mais pour d'autres raisons, par rapport à nos croyances.
Il y a un autre film.
De l'opéra. Il a quand même réalisé, il me semble, le Fantôme de l'Opéra, la version filmée chantée.
Non, ça c'est De Palma.
Non. Je parle de la dernière, celle qui est d'après...
oui, c'est ça, pardon, celle de 2004. Ouais. Oui. Ouais. Y a aussi un des films où je m'identifie beaucoup, surtout le vendredi soir, c'est Chute libre.
Oui, alors ce film-là, c'est pareil, je l'ai beaucoup aimé quand il est sorti. Je ne sais pas si je supporterais de le revoir. Parce que de souvenirs, quand je me rappelle du film, il me vient aussi des longueurs.
Il y a des longueurs.
Voilà.
Il y a des longueurs, mais c'est assez jouissif.
Le film est jouissif pour sa fin aussi. Encore
pour sa fin aussi,
tout à fait. Ouais. Alors là, pour le coup, un vrai burn-out.
Oui.
Filmé. Mais là, on n'est pas sur un huis clos.
Et enfin, pour moi, un de ses meilleurs films, c'est Tigerland. Un très bon film de guerre.
Oui, tout à fait.
Voilà. Avec
un sacré casting, de tête.
De tête, il y avait un bon casting, ouais. L'acteur écossais là, Colin Farrell, voilà.
Oui, Matthew Davis. Bon.
Donc voilà, Phone Game.
Phone Game est moi j'avais trouvé un bon film, un bon thriller en huis clos. Ouais.
Ouais. Ce qui permet de passer, vu qu'on est à P, on va passer à R. R comme Réservoir Dog, qui a été personnellement une claque pour moi. Je l'ai pas vu au ciné, j'ai mis du temps à le voir au ciné, puisque je l'ai vu au ciné il y a 5 ou 6 ans.
Comme toi, en fait. Comme toi, je ne sais pas si c'est comme toi, mais comme dit la chanson, mais moi, j'ai découvert Tarantino avec Pulp Fiction, en fait. Et quand j'ai vu Pulp Fiction, je me suis intéressé à ce qu'il avait fait avant. Et donc, effectivement, Reservoir Dog, par le biais d'un vidéoclub, parce qu'en fait, si j'étais né, j'avais pu louer, effectivement, la cassette vidéo de Reservoir Dog.
Là, tu vois, je l'ai vu avant Pulp Fiction.
C'est parce qu'il y a le masque, tu ne vois pas l'âge que j'ai.
Moi, je l'avais vu avant Pulp Fiction. Il est passé sur Canal+, ils avaient fait une soirée un peu sur ce thème-là. Parce qu'à l'époque, Tarantino émergeait, mais il était surtout pas connu, on va dire ça. Mais c'est surtout des scénarios qui avaient été adaptés.
Oui,
je pense il y avait Tourney qui arrivait, il y avait
d'Oliver Stone, tout à fait.
L'excellent True Romance.
Oui, fabuleux. Voilà.
Et donc Reservoir Dog, qui est un film qui est classe. Voilà, c'est
qui se revoit encore extrêmement bien. Ouais. Enfin, moi, je l'ai encore revu il y a pas très très longtemps, quand on avait justement parlé de, on avait fait notre série. Je te parle de l'avant confinement, le temps d'avant sur Tarantino, mais il passe encore très bien. La séquence avec Madsen en fou furieux, en train de danser autour de sa victime. Ça reste encore d'une violence inouïe, quoi.
Oui, puis l'impasse mexicaine finale, qui est très bien aussi.
L'impasse mexicaine finale est très bien.
Donc ça, c'est... Bon, je le mettrais dans mes 9 préférés. Mais j'aime beaucoup...
De Tarantino ou de huis clos?
De Tarantino.
D'accord.
Oh, des huis clos, il y en a plein. C'est ça qui est bien, c'est que... ce qu'il y a de bien aussi avec quelque part le huis clos, c'est que ça crée... ça impose de faire des films qui sont à l'opposé des gros blockbusters qu'il y a maintenant, enfin qu'il y avait avant le confinement, qu'il n'y aura plus avant un moment. Je suis tombé sur un article de Première il n'y a pas longtemps où il parlait de ça, du fait qu'il n'y ait plus de blockbusters, et au final, la conclusion de l'article, c'est est-ce que c'est grave? Peut-être pas. C'est un peu chiant, moi j'aimerais bien aller voir des trucs où tout pète de temps en temps.
Oui, mais... c'est ça, parce que moi quand je vais au cinéma, j'aime quand tout pète dans mes oreilles et dans mes yeux. Mais,
c'est ça. Mais
aller voir une comédie.
Là je suis allé voir des films qui avaient du goût, c'est bien aussi. Notamment Enragé avec. Enfin, c'est pas une comédie ça, mais Enragé avec Russell Crowe qui est plutôt sympa. Et puis même des comédies françaises, parce que la comédie française, elle a une fenêtre de tir, faut y aller. Mais bon. Voilà. Autre film en huis clos, Seul sur Mars avec de Ridley Scott.
Oui, bah avec Matt Damon.
Avec Matt Damon, qui est plutôt sympa, sauf la fin, qui est quand même vachement improbable. Mais ça reste cool quand même.
Oui, mais pour le coup, on est dans un film de SF. Enfin, je veux dire, déjà, c'est improbable qu'on reste tout seul sur Mars, donc, parce que déjà, il faut y aller. Non, mais au-delà de ça, moi, le film, j'ai beaucoup aimé.
Graphiquement, c'est très sympa.
C'est très visuel, en fait. Ouais. Mais c'est du Ridley Scott. C'est Ridley Scott, il peut rater ses films, je pense à Covenant par exemple, ou à même à Prometheus.
Et ça reste.
Mais tu as raison, sur le plan visuel, ça reste propre.
Ouais. Il y a Shining aussi.
Alors Shining est un huis clos. Ouais.
Pour les mêmes raisons qu'un autre qui vient après que The Thing, c'est pour la neige. C'est
oui, la neige qui bloque tout le monde. Oui, la neige bloque tout le monde. Shining, c'est même peut-être un peu plus. Évident, parce que tout se passe quasiment dans un hôtel, à part la fin dans le labyrinthe, mais le labyrinthe fait partie de l'hôtel.
Donc c'est ça.
On est dans l'hôtel, oui. Oui, tu as raison, The Thing, The Thing est d'autant plus un huis clos qu'il est la source d'inspiration des huit salopards, puisqu'il fonctionne sur le même principe.
C'est le même principe, oui.
Sur le principe de l'imposture.
C'est d'ailleurs ce qu'il est reconnu par Tarantino. The Thing, pour le coup, moi, ça a été une...
C'est pour moi un des films de huis clos les plus réussis. Parce qu'en plus, il y a une ambiance paranoïaque. C'est-à-dire, on n'est pas seulement face à une intrigue où on se demande qui va mourir. C'est qu'on a une vraie paranoïa. C'est lié.
Oui.
Alors, le film est assez ancien pour qu'on en parle, mais...
Il est de 82, je crois.
Oui, c'est ça, lorsque John Carpenter est surnommé le pornographe de l'Europe, puisque à côté de ça, il y a E.T. qui sort de Spielberg.
Coup, il a toujours été hors décalage. Il sort The Thing au moment où les extraterrestres, les gens veulent des extraterrestres
sympas. Gentils qui mangent des Smarties. C'est raté.
C'est raté, ouais.
Et là, donc, effectivement, on a une entité extraterrestre qui va contaminer, finalement, les habitants les uns après les autres d'une station polaire, puisque c'est vraiment une contamination, pour le coup. Où les gens sont contaminés sans le savoir, alors qu'à ce moment-là, ils sont déjà, ils font déjà partie de l'entité extraterrestre.
C'est ça.
En plus du fait que ce soit un film qui est quand même des passages assez gore, qui reste aussi très acceptable sur le plan visuel.
Avec des effets spéciaux de Rob Bottin, à l'époque, je crois, avait 24 ans et qui gérait une équipe de 40 mecs pour faire ces effets spéciaux. C'est vraiment, vraiment bluffant. Ils sont dégueulasses.
Dégueulasse. Je trouve que c'est très bien fait en fait.
Non,
c'est gore. Mais
par exemple, quand il décongèle la créature qui avait commencé à muter, on sent quasiment l'odeur de la bidoche.
Oui,
c'est vraiment bien fait.
Le film, il a plus de 40 ans. Hein.
Ouais.
Enfin, il a 40 ans.
Il va avoir 40 ans.
Ouais. Et visuellement, ça reste une claque.
Ouais.
Vraiment.
Le casting a réussi. Il y a Kurt Russell entre autres dedans. Le film,
je viens de me taper la poitrine parce que Kurt Russell quoi.
Ouais. T'as vu Bone Tomahawk?
Non, je l'ai toujours pas vu.
Ah, il est bien.
D'accord.
Ouais. Mais sur une ouverture signée Ennio Morricone avec une musique épurée au possible. Si vous êtes norvégien, vous avez dû apprendre la fin du film dès le début puisque les Norvégiens parlent en norvégien et racontent la fin du film.
Oui.
Donc ils disent ce qui va se passer. Donc voilà, autre huis clos dans l'été, il y a Titanic, mais je le mettrais un peu moins dedans parce que voilà. Mais bon, c'est un milieu fermé quand même.
Oui, après il y a quand même beaucoup d'extérieur. Il y a beaucoup de choses. Enfin, pour moi, on n'est pas vraiment. Voilà, je sais pas quoi te dire. Je suis mitigé parce que sur le principe, on est dans un huis clos, on est sur un bateau avec des centaines de personnes coincées, effectivement.
Mais c'est pas calme blanc.
Oui, c'est ça. Enfin, on connaît déjà la fin.
Oui.
quand même. Et puis.
Ce qui colle avec le huis clos, c'est qu'il y a quand même moins de monde à la fin qu'au début.
C'est ça, là, il y a vachement moins de monde. Mais ouais, je sais pas, c'est marrant, j'aurais pas mis ça en huis clos, moi. Mais tu as raison, ça répond.
Mais tu vois, c'est rigolo. Moi, ouais, c'est. Pour rien cacher, hein, c'est une liste Wikipédia que j'ai sortie. Titanic, c'est classé dans les films de huis clos, qui est sur un bateau, un film catastrophe. C'est moins à huis clos. C'est moins à huis clos que l'aventure du Poséidon, qui est sur un bateau. Ouais. C'est un naufrage, c'est un film catastrophe. Sauf que comme le bateau est sur le dos, ceux qui veulent survivre doivent remonter pour ceux qui n'ont pas vu le film. Ils remontent vers la cale qui se retrouve vers le haut, ouais. Et donc ils traversent tout des décors qui sont entièrement à l'envers, ce qui est vachement bien. Mais il y a vraiment un sentiment d'oppression puisque les décors sont anormaux, on sent que c'est fermé, il y a l'eau qui monte, enfin il y a tout ça. Et puis en plus ça se termine. Avec les derniers survivants qui tapent à la coque en espérant que, avant que le bateau sombre, les secours aient le temps de percer, de découper la coque. Alors que c'est vrai que dans Titanic, t'as pas ça. T'as pas ça.
Titanic est pour moi plus proche d'un film entre guillemets catastrophe, on va dire, un peu témoignage. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent à l'extérieur. Il y a toute l'intro avec.
C'est vrai qu'il y a toute l'intro. Ouais.
Avec Rose. Y a tout ce qui se passe en dehors du bateau, parce qu'en fait, ceux qui ont réussi à s'échapper, à part Jack, parce qu'il fallait quand même.
Alors qu'il y avait de la place sur la planche.
Il y avait de la place sur la planche. Enfin, on est bien d'accord. À part Jack, quand même, toute cette partie est extérieure et ils s'en sortent. Enfin, ouais, je suis mitigé. Voilà. Je suis mi-figue, mi-tronçonneuse.
Eh ben, on va conclure là-dessus, puisqu'il est 19h56.
Voilà. J'ai vu que sur ta liste, par-dessus ton petit écran, il y a Saw. Et moi, Saw n'est pas un huis clos pour moi. Il n'a pas à faire partie de cette liste.
Pour moi, le premier, si.
Ben non, même pas.
Si.
Le premier, à part la scène d'intro et la fin, mais il y a plein de choses qui se passent en extérieur.
Par contre, là, pour le coup, quand tu dis que tu as vu le coup venir dès le départ, moi, Saw, dans les 5 premières minutes, j'avais compris que le mec qui était allongé, c'était le méchant.
Ah oui.
Oui.
Ah ouais.
Parce qu'il y a un plan, alors de mémoire, c'est peut-être pas au tout début, mais il y a un plan où tu vois le revolver,
oui.
Et tu vois qu'il n'est pas chargé, en fait.
Ah oui.
D'accord. Et je me suis dit, soit c'est. L'accessoiriste, c'est un stagiaire. soit c'est vraiment un truc. Et je me suis dit, non, c'est le mec, bref.
Des erreurs de script. Je vous conseille une excellente émission sur Allociné qui est très drôle, qui s'appelle Faux Raccord.
Oui.
Il y a quand même des scripts qui ne méritent pas leur salaire. Hein.
C'est ça. Il y avait aussi Snowpiercer que j'avais surligné.
Eh bien, je suis d'accord, par contre, pour le coup.
Et là, pour le coup, l'oppression.
Mais je parle de film. Parce que la série, c'est pareil.
Elle est bien ou pas ?
Je n'ai pas encore commencé à la regarder, mais j'ai énormément de réticence à la voir, parce que les transpositions d'une en série, déjà, j'ai du mal. Et puis, j'ai eu quand même des échos auxquels je prête l'oreille et qui ne sont pas toutes très bonnes.
D'accord. Ouais, parce que moi, en fait, c'est surtout parce que le film m'a beaucoup plu.
Ah, le film est très bien, voilà. et la BD est encore mieux.
Chris Evans, voilà.
Oui, Chris Evans, Monsieur America.
Ed Harris... Tilda Swinton aussi, qui est très très bien. Et la scène du wagon avec les hommes de main, ça rappelle presque une manif des gilets jaunes.
Ouais, c'est ça.
Quand ils se font défoncer la gueule par des mecs en bleu, c'est pareil.
Ouais. Ouais. On avait dit pas de politique.
Pas de politique.
Ah oui, c'est vrai. Non. C'est Snowpiercer.
C'est Snowpiercer. Et puis voilà. Donc avec ça. On va conclure.
Moi, je reviens sur Garde à vue, parce que finalement, on n'est pas. On n'en a pas parlé, mais quand même, qui est un film. Avec Michel Serrault notamment, et puis
Lino Ventura,
qui pour le coup, pour moi, est vraiment le film qui va définir vraiment le genre, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans une salle d'interrogatoire et un flic interroge un type où il est persuadé que ce type est le coupable, qui est Michel Serrault, et Michel Serrault va passer son temps à essayer de démontrer son innocence. Il y a eu un remake américain avec Gene Hackman encore et puis Morgan Freeman, dont le titre m'échappe. Qui pour
avec
le coup
Monica Bellucci aussi
ouais. Monica Bellucci, mais qui pour le coup était pas un huis clos parce qu'il y avait beaucoup trop de choses en extérieur, ouais. et de fait ça empêchait le côté oppressant qu'on avait dans le film français original. Si ce film là vous ne l'avez pas vu, Garde à vue, il faut vraiment se ruer dessus. Alors là pour le coup on n'est pas dans du fantastique, on n'est pas extra, mais la tension qui est générée par ces deux monstres du cinéma et la manière dont ça monte petit à petit, on est en sueur pour eux, quoi, vraiment.
Ouais. Il y a un autre film de Wico dont on n'a pas parlé, c'est 12 hommes en colère aussi, qui est comme une des références du genre. Un film un petit peu de procès, un petit peu, mais c'est des personnes qui débattent de la culpabilité ou pas d'une personne. Il y en a un qui doute, et les autres pas, et il va essayer de les convaincre voilà. qu'il y a un doute.
Tout voilà. à fait, ouais. Ah ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de celui-ci.
C'est celle qu'Henri Fonda. Et voilà. On conclut là-dessus.
On va conclure là-dessus. J'étais presque en train de me dire que le prochain, pour rester dans le ton, parce que comme on ne sait pas si la prochaine émission se fera avec un masque ou pas, mais qu'il y a de fortes chances quand même.
Oui. Et en tout cas, ça sera qu'un masque, un masque et peut-être une tronçonneuse quand même.
Peut-être une tronçonneuse, parce qu'on sait jamais, il y aura peut-être des zombies ouais. qui apparaîtront d'ici là. Donc il faudra quand même qu'on ait la tronçonneuse.
C'est soit ça, soit des criquets géants. Donc ouais.
mais les criquets géants, la tronçonneuse, je sais pas.
Peut-être non, et puis pas. Au barbecue, c'est pas, ça peut être dégueu.
Voilà. Ouais. Mais peut-être que la prochaine émission, on pourrait la faire sur les maladies contagieuses graves oui. dans le film, dans les cinémas.
Oui, ou la gestion à la 28 semaines plus tard, par exemple.
Oui, bah c'est un peu pareil.
Ouais. Quand l'armée contrôle et puis que ça dérape et que finalement, bah, ils tirent dans le tas.
Ah oui. Ah oui, ils font ça en principe, tu crois ?
Oh, je... non, non, non.
Non, non, jamais.
Non, jamais.
Jamais. On bon. Parle de maintenant, je te rappelle que tout est médical. Les infirmiers sont des soldats et vont à la guerre.
Oui.
Alors que l'armée fait des frappes chirurgicales. Ouais.
Ah oui, j'avais pas pensé à ça, dis donc.
Ouais. Bah, tu vois ouais. un peu, hein. On n'est pas loin. Hein.
Ah ouais, ouais, ouais. C'est quand même pas mal. Bon,
on se quitte en musique.
On se quitte en musique, je peux mettre un petit truc. Bah non, de toute façon, on va passer, puisqu'il y a une section musicale ciné juste après. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai préparé avec des films.
Monsieur Slapette.
Des musiques de films où il y a des gens qui meurent de maladie dedans. Donc.
Ah, c'est, on pourrait presque penser que t'es dans ton époque.
C'est possible, c'est possible. Oh, je me suis un peu fait chier pendant le confinement quand même. Mais c'était une bonne expérience quand même.
Ouais, ouais c'est toujours sympa.
C'est de se dire que bon, on va s'asseoir et attendre que ça passe.
Moi, j'ai voulu faire télétravail, mais ils m'ont dit non.
Ah.
Et pour des raisons que tu connais.
Bon, bah bon mois à tous, bon mois d'octobre.
Et on se retrouve.
On se retrouve au mois de novembre pour donc novembre. On fera les films de maladie.
Les films de maladie, ouais. Ouais. ouais c'est gay en plus.
Ouais, on va parler de Planète Terreur avec une baston de pu. Il y a une baston de pu dans Planète Terreur.
De Contagion.
De Contagion, ouais, avec Kate Winslet qui meurt. Enfin, bon, bref, super. Ouais, des super films.
Alerte aussi.
Alerte aussi.
On voit que fabriquer un vaccin, c'est pas compliqué.
Non. Non, il faut une heure et demie. Et de Sinopharm. Allez, bah bonne soirée à tous et à bientôt.
À
salut.
Bientôt, salut.